En Jérémie, chapitre 32 et verset 41. C'est donc dans la première partie du verset. J'ai trouvé ce verset vraiment formidable et très encourageant. C'est Dieu qui parle et qui dit « Je prendrai plaisir à leur faire du bien ». En parlant donc au peuple de Dieu, tous ceux qui appartiennent à Dieu, eh bien voilà ce que Dieu déclare. Il dit « Donc je prendrai plaisir, Dieu prendra plaisir à nous faire du bien ». Et donc c'est un petit peu dans cette optique que j'aimerais commencer cette petite étude. Et je pensais un petit peu à la rentrée sur Paris. Pour moi, déjà au niveau du temps, aujourd'hui, je sais pas, il fait un peu plus beau, mais on est rentré du sud de la France avec une grisaille horrible. Il pleuvait tous les jours et tout ça. Et on sait que comme ça peut parfois nous abattre un petit peu. Et donc, je disais que nos vies sont si facilement embuées, remplies de buées comme ça, tout à coup. Ça allait, et puis on reprend un peu la vie de tous les jours, et puis tout à coup il y a de la buée partout, et on voit plus grand chose à l'extérieur, les choses ne sont plus très claires. Et la rentrée est là, et lorsqu'on considère la rentrée, on peut dire que c'est un peu un nouveau commencement. Et c'est toujours une bonne période pour revoir des choses avec Dieu. Dieu est toujours et l'origine de tout commencement, soit le commencement de la création, la terre, le commencement, l'origine de l'être humain. Et Dieu a fait les jours pour que chaque jour, on puisse avoir un commencement nouveau. Donc Dieu est toujours dans le fait de faire des choses nouvelles. Et on connaît bien Lamentations 3:23 qui nous dit que les bontés de Dieu sont nouvelles, ses compassions sont nouvelles chaque matin. Combien on a besoin de savoir ça le matin quand on se lève et que tout est embué, que les compassions de Dieu sont nouvelles ce matin. Et donc malgré tout, avec les détails de la vie, la grisaille et tout ça, et bien cette rentrée peut-être qu'elle est passée, comme ça on est replongé dans les choses quotidiennes, et on perd rapidement une vision claire de la vie avec Dieu, de ce que Dieu nous a montré peut-être, et puis après les choses vont très vite. Et donc avec cette étude biblique, juste je vous encouragerais de faire peut-être une rentrée. Si pour certains peut-être vous avez fait la rentrée avec Dieu, et puis pour d'autres vous l'avez pas faite encore, donc c'est peut-être l'occasion de la considérer, donc de une manière de réévaluer nos vies un peu, nos emplois du temps, les choses que par exemple on voulait faire. Dieu nous a montré que telle chose était bonne pour nous, et puis on a commencé à le faire, on a laissé tomber, mais je pense que c'est une bonne chose de prendre des décisions, de dire je voudrais faire ça, planifier des choses. Et cet été, j'avais suivi un cours, et le professeur nous disait que lui, il avait planifié qu'il irait un livre en dehors de la Bible, même si lire la Bible est important, lire un livre chaque semaine. Donc ça fait partie de sa vie de discipline. Bon, moi j'ai pas fixé ça pour ma vie, mais quelque part, ça m'a interpellée. J'ai dit, mais moi, est-ce que je fixe des choses comme ça devant Dieu qui vont me faire avancer? Ça peut être donc lire un livre ou s'informer aussi de ce qui se passe dans le monde. Ça peut être dans divers domaines. Ça va être, faire un coup de téléphone, enfin appeler quelqu'un une fois par semaine ou une fois par mois. Enfin, donc se mettre des petits défis pour nos vies, alors que Dieu nous le montre. Donc ça, c'est un peu un encouragement. Et donc toujours pas se dire, bon, j'ai essayé de toute manière. On se dit qu'on prend les bonnes décisions là le jour de l'an, et puis après on laisse tomber. Mais en même temps, avec Dieu, lorsqu'il nous montre des choses, bon, on peut échouer, mais après on peut se relever. Et puis, si Dieu nous montre des choses, c'est pour notre bien, quoi. Donc, il faut continuer à croire Dieu pour des nouveaux défis. Et ce que j'aimerais qu'on voie aujourd'hui, qui va pouvoir nous aider justement pour cette nouvelle rentrée, c'est de voir que Jésus est avec nous, il est pour nous et il est en nous. Ça va être c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça va nous aider à peut-être avoir un peu plus clair, enlever la buée qu'il y a dans notre esprit peut-être. Dans Hébreux chapitre 4 et verset 15. Alors vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais vous allez faire de la théologie cet après-midi, l'étude de Dieu. Et donc, Hébreux chapitre 4 et verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Quelqu'un a une autre version, peut-être français courant ou un truc comme ça. Tu veux venir le lire? Parfois, en lisant une autre version, ça éclaircit les choses.
En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché.
Merci. Donc là, le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ, mais je vais peut-être expliquer ce qu'est un souverain sacrificateur. On peut dire que c'est un prêtre, on peut dire, et c'était chez les Juifs, donc la personne, ou les personnes plutôt, qui faisaient le service pour Dieu. Donc dans le temple, dans le tabernacle, il y avait une tribu qui avait été choisie par Dieu. Et donc, ils s'occupaient des offrandes, des sacrifices, recevoir les offrandes, les sacrifices de la part du peuple. Et on peut dire qu'ils étaient un peu un médiateur, quelqu'un qui est entre les hommes et Dieu. Donc, un sacrificateur, c'était ça. On le voit, c'est un peu expliqué après au chapitre 5, on va le lire. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc, il fallait bien qu'il y ait des gens qui viennent et puis qui fassent les rituels que Dieu demandait pour les péchés. Et donc après, verset 2, « Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. » Alors là, donc, il parle d'un homme quelconque, quoi, qui faisait partie de cette tribu, mais on voit bien que cet homme-là, ben lui aussi, il avait des faiblesses, il avait des péchés, et donc il devait lui aussi offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Donc il représentait Dieu devant les hommes, mais pas parfaitement, parce que lui, en même temps, c'était un homme qui faisait des péchés, et donc il ne pouvait pas vraiment représenter Dieu devant les hommes, même si Dieu disait des paroles aux sacrificateurs pour le peuple. Mais donc c'était un peu une image mais imparfaite de quelqu'un qui pourrait être entre les hommes et Dieu. Par contre, Jésus-Christ, il a été donc le souverain sacrificateur parfait, parce que au chapitre 4 verset 15, il est dit que lui il n'a pas péché. Donc ça c'est un point important. Donc souverain sacrificateur. Ensuite, on va lire aussi au chapitre 5, au verset 8, en parlant de Jésus aussi. Pour moi, c'est un tout petit peu avant. Chapitre 5 de Hébreux, et au verset 8, juste au-dessus, moi, c'est dans le verset 7. « Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Donc Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, on peut voir que Jésus-Christ est venu sur la terre, il était 100% homme et il était, ça c'est le mystère, 100% Dieu. 100% homme et 100% Dieu. Et donc, il a pu rencontrer nos faiblesses, tout ce qu'on a pu endurer. Et en même temps, comme il était Dieu, et bien, il a pu être celui qui a pu nous sauver parce qu'il était sans péché. ce qui nous arrive parfois dans notre relation, c'est pour ceux qui connaissent cette communion avec Jésus-Christ qu'on peut avoir. On peut voir Jésus-Christ justement comme le souverain sacrificateur venu du ciel, 100% Dieu. Et juste le voir de ce point de vue-là, il est saint, il est parfait, il est juste. Et donc nous, quand on va vers lui, ben un peu, on se reconnaît pas trop là-dedans et on se sent ben, coupable parce que bien sûr que nous, on peut pas atteindre les standards d'un Dieu parfait, quoi. Et nous oublions qu'il est en même temps ce qu'il a été sur cette terre 100% homme. Et donc, il nous comprend. Il nous comprend quand on échoue, quand on a travers des faiblesses. Et il est dit donc qu'il peut compatir. Hein, il est un sacrificateur. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc, il peut compatir à nos faiblesses. Et le mot, c'est, qui connaît certains, sumpatheo. Donc c'est en grec, hein, c'est le mot grec. Parfois on regarde le mot en grec, ça nous donne une signification plus précise. Ça veut dire ensemble, souffrir, ensemble ou avec. Donc sumpatheo. Et ça montre que Jésus a été affecté de manière similaire à nous. Il a été affecté de la même manière que nous. Ensuite, le mot faiblesse, il peut compatir à nos faiblesses. Quelles sont ces faiblesses? Le mot qui, dans le grec, là, c'est asénia, et ça veut dire être sans force. Donc ça veut dire être malade, faible, dans tous les sens, soit physique, ça peut être aussi moral, mentalement. Et donc toutes ces faiblesses, eh bien, on va essayer peut-être un peu de les lister, hein. Ça peut être des faiblesses physiques, la fatigue, la maladie, la souffrance, les différents besoins qu'on a tous les jours, la faim, la soif, le sommeil. Des fois, on se sent coupable d'avoir sommeil d'être fatigué après une journée de travail. Mais on va voir que Jésus a vécu la même chose, quoi. Et puis ça peut être aussi dans nos émotions, dans le stress qu'on doit supporter, les besoins qu'on a, le besoin d'être aimé, le besoin d'aimer. Et on peut vivre et être troublé, être blessé dans ces domaines-là, se sentir désécurisé, avoir de la crainte, avoir des faiblesses même intellectuelles. Ça peut être, donc on a quelque chose devant nous, étudier la parole de Dieu, par exemple, pour certains qui sont à l'école biblique. Bon, ben, c'est un défi. On dit, non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Mais Dieu connaît chacune de ses faiblesses, quoi. La comparaison, le fait de se comparer les uns aux autres, d'avoir une image de soi mauvaise. La jalousie, les craintes, enfin toutes ces choses qui peuvent nous troubler et qui peuvent aussi nous éloigner de Dieu et puis nous dire que c'est pas la peine de nous approcher de Dieu de toute manière avec tout ce qu'on transporte. Et puis il y a aussi les faiblesses spirituelles. Ça, il faut pas les oublier. La Bible dit que à cause du péché, donc notre chair, la chair, c'est un sens négatif. C'est un désir opposé aux choses de Dieu. Hein. L'Esprit de Dieu nous dit que telle chose est bonne pour nous. Et bien, en nous, on a cette opposition. Moi, je veux faire le contraire. Et puis, dans les faiblesses spirituelles qu'on peut subir, il y a aussi les oppositions démoniaques, les démons qui agissent aussi dans nos pensées, qui peuvent nous décourager, qui peuvent... vraiment faire beaucoup de choses et souvent on se rappelle pas ces choses-là. On se rappelle pas que Dieu existe, mais il y a aussi le diable et ses démons et que on est sous cette influence-là. La projection du monde aussi. Le monde nous projette des choses et on se sent pas bien, on se sent sali et tout ça. Ou alors on dit mais est-ce que je suis normale ou est-ce que parce que moi je veux rester pure, je veux être intègre vis-à-vis de Dieu, et tout autour de moi les gens ils font tout le contraire, quoi. Et donc tout ça ça peut amener beaucoup de troubles. Toutes ces faiblesses et le mot faiblesse aussi, c'est lié, en fait, c'est une conséquence comme du péché. Ça peut être indirect ou direct. Ça peut être, maintenant j'ai une faiblesse parce que je suis tombée dans le péché, et puis donc je récolte ce que j'ai semé. Et après, il y a aussi d'autres conséquences qui sont indirectes, et on va voir ça dans Genèse, donc tout au début. Genèse 2:17. Le péché est entré dans le monde à cause, la mort est entrée dans le monde à cause du péché. Donc en fait, ça peut être nos corps mortels maintenant qui s'abîment, et puis qui vont vers la destruction, la maladie, tout ça. Tout ça, ça vient en fait du péché qui est rentré dans le monde, et donc avec le péché, la mort. Donc dans Genèse 2:17, c'est Dieu qui parle à l'homme. Et donc, verset 16, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Donc, la conséquence du péché, c'était la mort. Donc, la mort sur l'homme, mais la mort aussi dans le monde, partout. Et ensuite, en Genèse chapitre 3, Ève et puis Adam, ils désobéissent, ils prennent du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et on voit qu'au verset 7, tout de suite, on retrouve tous les problèmes, toutes les faiblesses maintenant qu'on rencontre aujourd'hui. On voit que les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc ils ont une gêne l'un vis-à-vis de l'autre. Donc déjà, il y a un problème de relation entre Adam et Ève, dès le début. Ensuite, au verset 8, ils ont peur de Dieu. Hein, ils se cachent loin de la face de l'Éternel. Ils se sentent coupables. Donc ça n'a pas duré très, très longtemps. Le résultat du péché, quoi. C'est pas encore une mort physique, mais c'est déjà une... Ils sont plus dans un état en fait parfait, quoi, sans problème. Donc tout ça, c'est conséquence du péché. Ensuite, au verset 12, on voit que l'homme, il dit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc c'est pas de sa faute, c'est la faute à la femme. Donc c'est l'accusation maintenant. Donc il n'ose pas dire la vérité, donc c'est un mensonge aussi, on peut dire, hein, même le fait de remettre la faute sur l'autre. Et puis la femme, elle est pas mieux, parce qu'au verset 13, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc c'est pas de ma faute. Et donc accusation vers le serpent. Et au verset 15, donc Dieu dit ce qui va maintenant se passer, les conséquences de leur choix. Ils vont je mettrai inimitié, en parlant à la femme, entre toi et la femme, au serpent, il parle au serpent, le diable donc. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et donc on voit qu'il y aura maintenant une guerre spirituelle, une opposition spirituelle entre l'homme et Satan et ses démons. Donc ça, déjà, c'est... Verset 16, il y aura une douleur physique et mentale pour la femme. La souffrance des grossesses, le fait que ses désirs se porteront vers son mari. Donc c'est... Ensuite, au verset 17, Dieu s'adresse à l'homme. Et là, pareil, la douleur physique, il devra suer, il y aura des épines qui sortiront du sol. Et donc tout ça, vous voyez, ce sont les conséquences du péché. Et encore aujourd'hui, donc on récolte ça. Et au verset 19, à la fin, il dit à l'homme, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc ça va être la destruction finale du corps. Donc les faiblesses sont, comme je disais, liées directement ou indirectement au péché. Mais il y a peut-être une bonne nouvelle quand même. Sinon, on va être tous déprimés. Si je me retrouve. Voilà. Dans Ésaïe, chapitre 53 et verset 4. C'est le même terme, le même mot, faiblesse. En fait, on le retrouve après dans Matthieu 8, 17, parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Mais après, il y a des passages des Écritures qui sont écrits en grec dans le Nouveau Testament, donc on retrouve les mêmes mots. Donc, Ésaïe 53, verset 4. En parlant donc de Jésus, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le mot, en fait, souffrance, ça, c'est le même mot que faiblesse, en fait. Et dans Matthieu 8, 17, ce passage est recité. Et donc, c'est ce mot faiblesse qui est donné. Donc, on voit que Jésus-Christ, il a pris, en devenant un homme, il a pris les conséquences de nos péchés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et sans que lui-même, il pêche. Donc, il est devenu mortel. Il est devenu un homme mortel, avec une humanité comme nous, pour pouvoir mourir pour nous, pour pouvoir s'identifier parfaitement à nous. Et en même temps, comme il n'a pas péché, il a pu offrir à Dieu son corps en sacrifice à notre place. Et tous les péchés de l'humanité, passé, présent, futur, ont été placés sur Jésus-Christ. Et la colère de Dieu sur la croix est tombée sur Jésus. Et il a été jugé pour nous. Nous, on devait être tous jugés pour chacun de nos péchés. Mais Jésus, en devenant un homme, donc il a pris notre place, c'est un homme, mais sans péché. Et donc, Dieu ne l'a pas laissé dans la tombe. Il fallait qu'il y ait un jugement. Donc, la colère de Dieu est vraiment venue sur lui. Il a vraiment souffert la séparation avec Dieu, le Père. Mais 3 jours après, on sait que la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Parce que lui, il ne pouvait pas rester dans la mort, puisque lui était sans péché. Et donc, il est ressuscité. Et maintenant, il dit, moi, je suis le sacrifice parfait pour tous les hommes. Et donc, simplement, si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour chacun de vos péchés, qu'il est ressuscité, la Bible dit... Eh bien que nous sommes sauvés. C'est qu'il a fait ce que nous ne pouvons pas faire. Alors la seule chose, c'est qu'il faut croire. Et si on croit, c'est comme si on avait fait la chose avec Jésus. Et donc après, Dieu nous voit sans péché, tout simplement parce que on croit que Jésus sur la croix a porté tous nos péchés. On est purifié, on est lavé par le sang de Jésus. Donc c'est ça vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile et qui libère vraiment nos vies. Et donc, pour continuer après, dans Hébreux chapitre 5 et verset 8, pour montrer un peu comment Jésus s'est identifié à nous sur cette terre. Donc il est dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc il a appris, il a compris les choses parce que il a reçu un enseignement. C'est la signification du mot. Hein, on apprend quelque chose, pas ça ne tombe pas comme ça du ciel, bon, entre guillemets, mais c'est parce que quelqu'un nous enseigne. Quelqu'un nous enseigne et alors on apprend et on comprend les choses. Jésus, c'est comme ça qu'il a appris. Il était homme et Dieu, mais au fur et à mesure qu'il a grandi, qu'il a marché, ça venait pas comme ça, en fait. C'était parce qu'il apprenait en recevant l'enseignement. Donc ça, c'est vraiment la signification de ce mot, de « il a appris ». Et « souffert », en fait, ça veut dire que puisque Jésus a souffert, il a souffert toutes ces choses avant nous, et bien il peut souffrir avec nous aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la chose importante. Et l'obéissance, en fait, c'est un mot qui veut dire, de manière générale, c'est une obéissance d'un esclave à un maître. Ça a été l'attitude de Jésus. C'est comme ça qu'il était avec ses parents. comme il était avec son Père Céleste lorsqu'il priait, il était comme un esclave avec son maître. Et nous sommes aussi appelés à ça. Et l'obéissance, on sait que vu que ça a coûté à Jésus, ça l'a fait souffrir, faut pas croire que pour nous ça va être facile. C'est en plus, nous, notre nature, elle veut pas obéir. Et ça, il faut qu'on le comprenne, quoi. Donc on revient dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Plus je l'ai là devant moi. Car nous n'avons pas donc un souverain sacrificateur, donc celui qui nous représente devant Dieu, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc, il comprend, il connaît toutes nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. J'avais aussi fait une liste un peu des faiblesses de Jésus. Parce qu'il a eu en fait, des infirmités qui sont liées à notre nature. On sait que il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, il a eu sommeil. Je vous donne pas les, j'ai les versets si ça vous intéresse, mais donc on sait qu'il a appris, hein, quand il dit qu'il grandissait, qu'il croissait en sagesse et en stature, donc au fur et à mesure qu'il grandissait d'enfant. Il vivait dans une famille, et même les gens de sa famille, ses frères, sa mère, ils n'ont pas cru en lui au début. Donc, il a vécu ce que ça peut être dans une famille quand on n'est pas compris. Hein, on peut se dire, oh, moi, Jésus ne peut pas me comprendre, hein, parce que de toute manière, il n'a pas vécu une vie de famille, des problèmes familiaux, mais... Si, parce qu'il a été dans ce cadre-là, il a vécu dans un cadre familial. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que il a travaillé, il était charpentier. Donc, jusqu'à 30 ans, en fait, il a travaillé. Des fois, on se dit, oui, la vie avec Dieu, c'est j'arrête mon travail, je vais évangéliser le monde entier. Et puis on se dit aujourd'hui, chaque jour, je vais au travail. Dieu, tu comprends pas. Si, il comprend. Pendant 30 ans, parce qu'il n'a pas commencé dès sa naissance, mais il a appris un métier et chaque matin il se levait, il allait travailler. Et son ministère en fait n'a duré que 3 ans. Mais sinon, tout le reste, il a une vie ordinaire, mais une vie avec Dieu quand même. Donc ça, c'est réconfortant. Donc on voit qu'il a été tenté dans Matthieu chapitre 4 par le diable. Il a été tenté à d'autres reprises, hein, puisque à la fin de cette tentation qui est décrite dans Matthieu chapitre 4, on voit que le diable se retire pour une occasion, une autre occasion plus favorable. Donc on sait que le diable n'a pas laissé tomber, n'a pas laissé Jésus tranquille après. Hein. Il a été donc tenté en toutes choses, comme nous, on peut être tenté par beaucoup de choses, convoitises, quelles qu'elles soient. Et donc le mot tenté, que ce soit là dans Matthieu 4 ou Hébreux chapitre 4 et verset 15, c'est être éprouvé dans un bon ou dans un mauvais sens. Et c'est un test qui veut amener la personne à pécher, souvent. Mais il y a aussi le sens, il y a un choix en fait. Donc c'est bien de se rappeler que la tentation, ce n'est pas le péché. Lorsqu'on est tenté, c'est qu'il y a, donc le diable vient par différentes choses dans nos pensées ou quoi. Eh bien, ça, c'est pas le péché. C'est après la réponse qu'on donne à la tentation. Jésus a été tenté, il n'a pas péché. Donc il a été exposé à cela, mais il a choisi donc de ne pas pécher. Donc il peut vraiment, vraiment nous comprendre. On voit aussi qu'il était dépendant au Père lorsqu'il était sur cette terre. Il priait le Père, demandait au Père la puissance pour les miracles aussi. Il était 100% homme, 100% Dieu, mais il n'a pas utilisé, en fait, sa déité, sa divinité. Il demandait au Père d'intervenir à travers lui. Donc, parce qu'il voulait absolument s'identifier parfaitement en nous, à nous, et donc que ce soit un exemple pour nous, que c'est possible de vivre une vie surnaturelle avec Dieu, quoi. Au psaume 103 et verset 14, il est dit que Dieu, j'envoyais mes notes et puis la parole de Dieu comme ça me montrait mes incapacités, mes manquements et tout à coup là Dieu m'a dit mais je me souviens que tu n'es que poussière. Dieu se souvient que nous sommes que poussière, que nous avons toutes ces faiblesses attachées à nous, que le diable vient nous attaque de diverses manières, que le monde nous agresse. Donc Dieu c'est cela, et Jésus le sait parce qu'il l'a vécu. Donc quand on vient vers lui et qu'on sent misérable, la première chose qu'on doit se rappeler, c'est que Dieu se souvient que nous sommes que poussière. Ça c'est vraiment, je veux dire, c'est ce qui va vous aider vraiment à vous approcher de Dieu et de pas vous sentir coupable, parce que il a pris tous nos péchés déjà, il a payé pour tout ça et il sait tout ce qu'on peut traverser, parce que lui il a traversé aussi. Il est pas là comme un juge en train de dire oui alors t'as échoué là. Non, il est pas comme ça. Il nous accueille. Le mot poussière, donc, ça parle de la fragilité de la nature humaine. Et dans d'autres passages, lorsqu'il est parlé de l'argile, c'est le même mot, la poussière, l'argile. Et donc, lorsqu'on réalise qu'on est que poussière, en fait, on se rappelle que c'est Dieu notre créateur, que nous, on est une créature, simplement. Et donc ça nous rend humble, ça nous humilie peut-être, mais ça nous rend humble. Et là, on peut entendre la voix de Dieu, parce que souvent, on est là avec tous nos efforts et tout ça, et on n'a pas besoin de Dieu, on met Dieu de côté. Mais quand on se rappelle qu'on n'est que poussière, et bien là, Dieu est présent, il est près de ceux qui sont humbles. Au temps de Jésus aussi, on voit que Pierre, un des apôtres, Jésus savait que le diable allait l'attaquer. Hein, dans Luc chapitre 22, verset 31, il dit, on va regarder, je ne me rappelle pas par cœur. Donc Jésus sait que nous sommes attaqués par le diable. Donc Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, donc s'appelle Simon-Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc là, Jésus, il savait que Satan allait attaquer, faire tomber Pierre, faire qu'il n'ait plus la foi. Et il l'avertit donc. Et puis il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Vous voyez comment Jésus est vis-à-vis d'un croyant. Il l'écrase pas, quoi. Il dit, bon, allez, tu t'es laissé abattre par Satan, là. T'es juste là avec une petite main. Et je vais écraser. Non, Dieu, il nous écrase pas. Il dit, non, moi, je prie pour que ta foi ne défaille pas. Et on voit que pour Pierre, ça a marché, quoi. Donc Jésus est le même aujourd'hui. Donc il prie pour nous. On peut vraiment venir à lui sans condamnation. Et c'est le verset qui suit en fait dans Hébreux 4, au verset 16. La conséquence de savoir et de comprendre, de croire que Jésus compatit à nos faiblesses, qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, et bien ça produit deux choses. C'est que nous demeurons fermes dans la foi, ça nous aide à demeurer ferme. Et puis aussi, ça nous aide donc à nous approcher de Dieu, du trône de la grâce. Donc au verset 14, il est dit « Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et ce qui est assez étonnant, c'est l'association entre le trône et grâce. Mais c'est le trône, ça fait penser à un roi qui a toute autorité et que Dieu est souverain. Ça, c'est une chose à se rappeler. Mais en même temps, trône de grâce, c'est pas un trône de jugement. C'est pas un trône qui va nous accabler, nous faire tomber. Mais c'est de grâce. Donc Dieu est condescendant, il est rempli de compassion pour nous, prêt à nous aider. Et pour terminer, en fait, on a vu que Dieu est avec nous, il est pour nous et il est aussi en nous. Jésus est en nous. Et ça, on va le voir dans Jean chapitre 14 et verset 16. Donc lorsqu'on sait que Dieu nous soutient, il est dit que Dieu soutient tous ceux qui sont tombés. Je ne me rappelle plus où il est, c'est psaume 145 et verset 14. Donc on est soutenu par Dieu, on est relevé par Dieu, et puis donc on ne s'arrête pas là, on ne dit pas voilà, ben Dieu me comprend, il sait que je suis faible et tout ça, on peut rester là comme ça, mais Dieu est en nous maintenant. Et donc il y a une possibilité de vivre une autre vie, de vivre des défis avec Dieu, de vivre quelque chose qui nous dépasse. Et je me rappelle encore ce moment que j'avais avec Dieu, c'était vraiment ça, quoi. C'était maintenant que je sais que Dieu est pour moi et avec moi, il comprend toutes mes faiblesses, Ben, je me tapote pas le dos en disant oh oui Seigneur console-moi jusqu'à la fin de ma vie. Non, c'est Dieu mais tu es en moi, donc je vais pouvoir vivre les mêmes choses que Jésus sur terre, quoi. Et Jésus a dit que même on ferait des choses plus grandes. Donc ça s'arrête pas simplement au réconfort, d'être réconforté par Dieu. C'est un tremplin pour croire Dieu pour aller jusqu'au bout et faire des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi. Jean 14, verset 16. Donc c'est Jésus qui parle, on parle à ses disciples. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Donc Jésus a parlé à ses disciples qu'il va partir, qu'il va mourir à la croix. Et ensuite, donc, il dit qu'il va envoyer un autre consolateur, donc qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, ce n'est pas de temps en temps, quand vous vous tenez bien ou quand vous faites bien les choses. Non, il demeure éternellement avec vous. Verset 17, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. » Et il sera en vous. Donc là, les disciples, Dieu était avec eux. Jésus était avec eux. Mais il dit, mais il sera en vous. Parce que Jésus allait mourir sur la croix, ressusciter. Et ensuite, eh bien, il pourrait venir habiter par le Saint-Esprit en nous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et après, verset 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, on voit que Jésus fait cette promesse que le Saint-Esprit donc pourra habiter en nous. Et donc c'est la Trinité en fait, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Parce qu'après Jésus dit « Je serai en vous ». Donc c'est la même personne en trois. Mais à un moment donné, il est dit « Celui qui ne m'aime pas et ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » En fait, si quelqu'un n'aime pas la parole de Dieu qui est annoncée, c'est sûr qu'il ne va pas appartenir à Dieu. S'il ne croit pas que Jésus est l'envoyé de Dieu, que c'est lui qui est venu pour payer pour les péchés, c'est sûr que Dieu ne peut pas habiter en lui, quoi. Mais Jésus est en nous par le Saint-Esprit, et donc c'est important de réaliser c'est un potentiel extraordinaire que nous avons. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 4 et verset 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc Dieu en moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et donc on peut vraiment relever des défis avec ça dans notre pensée, en ayant cette compréhension-là. Et je pensais à tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit aux États-Unis, ici en France. Tout peut nous être enlevé. On ne sait pas ce que demain sera fait, vraiment. Mais une chose ne peut pas nous être enlevée, c'est Christ, Jésus-Christ. Il sera toujours avec nous, il sera toujours en nous. Donc, investissons pour les trésors éternels. La bourse, elle est tombée parce que mais l'investissement dans le trésor qui est Jésus-Christ en nous, ça peut pas être dévalué, ça peut pas être bougé par des circonstances sur cette terre, et ça va rapporter beaucoup plus que tous les trésors sur cette terre. Donc juste pour terminer, une petite question qu'on peut se poser pour organiser nos vies de tous les jours ou de manière générale dans les décisions à prendre. Est-ce que ma vie, mes décisions, mon emploi du temps tournent autour de Dieu? Est-ce que ma vie tourne autour de Dieu? Ou est-ce que Dieu tourne autour de ma vie? On peut avoir Dieu en nous parce que simplement on a cru. Hein, le salut, c'est un cadeau gratuit. Simplement, on a cru un jour, donc Christ vit en nous. Mais après, chaque jour, est-ce que Christ est ma vie, en fait? Est-ce que ma vie tourne autour de Dieu, comme ça? Ou alors, est-ce que ma vie, elle est au centre, et puis Dieu essaie de tourner autour de moi? Et ça fait toute la différence dans nos vies, dans nos choix, dans nos décisions. Et je sais que pour les choses principales, j'essaie de voir est-ce que je suis sur la bonne direction en me posant cette question. Et puis après, tous les jours, j'ai besoin de me reposer parfois cette question dans ma vie de pensée. Je suis là. Est-ce que ma vie tourne autour de toi, Dieu? Ou est-ce que c'est toi qui essaie de tourner autour de ma vie parce que moi, en fait, je suis le centre? Et ça m'aide parfois à remettre les choses à la bonne place. Donc quand simplement nous comprenons et puis que nous croyons que Dieu est avec nous, qu'il est pour nous, qu'il est en nous, alors on peut savoir et on peut vivre vraiment que vivre avec lui, suivre ses commandements sont légers, son fardeau est léger. Suivre Dieu, c'est pas quelque chose de difficile, c'est vraiment léger et c'est la vie à laquelle on est vraiment appelé.